votre revue de presse. Frédéric Pommier, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Des masques, des attestations de sortie, mais aussi des banderoles de soutien aux soignants. Voici quelques-uns des objets envoyés ces dernières semaines au MUCEM à Marseille, le Musée des Civilisations et de la Méditerranée, qui a lancé un appel aux dons il y a un mois. Comme d'autres institutions à travers la planète, le MUCEM s'est lancé dans la collecte de symboles pouvant documenter l'expérience de vie singulière qu'aura été le confinement de la population. Un musée de Londres recueille ainsi les panonceaux et autres dessins d'arc-en-ciel qui ont fleuri en masse dans les vitrines outre-Manche. Un musée du Danemark recueille des photos. Un musée canadien des témoignages signés par les habitants, et le MUCEM a donc lui choisi des objets. Comme on peut le lire dans le journal du dimanche, plus de 350 personnes des six coins de l'Hexagone ont pour l'heure répondu à cet appel aux dons. Banderoles, attestations et masques, mais aussi des casseroles. Celles qui ont servi pour faire du bruit aux fenêtres le soir à 20h. Un Marseillais est venu lui déposer sa paire de chaussures de randonnée, usées dans les calanques, une heure par jour, mais tous les jours. Autre étrangeté, une brouette, confectionnée par un jeune papa, et munie d'un étonnant harnais abdominal pour tirer ses enfants et se muscler en même temps. Des objets qui, dixit le musée, racontent la césure entre le dedans, le dehors, ou bien encore le temps qui passe. La collecte se terminera le 31 mai. Les objets seront alors triés, puis des anthropologues, des sociologues, des chercheurs mèneront ensuite des enquêtes pour analyser la période. Le confinement entre au musée, titre l'hebdomadaire ce matin.
D'autres objets racontent ailleurs ce moment dont nous sortons à peine, Frédéric.
Et ils auraient donc aussi leur place au musée. Une balance, par exemple, c'est dans la République du Centre. Un grand dossier sur le poids du confinement. Une télévision dans la dépêche du dimanche. Parce que pendant le confinement, le petit écran est devenu ou redevenu le centre du quotidien de nombreux Français. De son côté, l'Express évoque l'explosion des ventes d'Igiaphone, qui avaient quasiment disparu des administrations. Dans Nord Littoral, on nous dit que le virus a relancé les camping-cars. Mobilité, indépendance, cette façon de voyager connaîtrait un nouvel essor. Dans la montagne, c'est un dossier sur la barbe. Durant le confinement, beaucoup d'hommes ont choisi d'arrêter de se raser. Dans Elle, c'est un dossier sur le soutien-gorge. Durant le confinement, beaucoup de femmes ont choisi d'arrêter d'en porter. Et puis La Croix, l'hebdo, nous raconte le pain. Pas celui que certains se sont mis à faire chez eux dans leur cuisine, mais celui qu'on a pu continuer d'acheter dans nos boulangeries, lesquelles, pendant le confinement, sont restées un repère, surtout en campagne. Lisez ce reportage, ce très beau reportage, sur ce couple de boulangers de Dordogne qui ont su maintenir le lien avec des personnes isolées en allant vendre leurs baguettes, leurs croissants, à bord d'un petit camion sur les routes du département. Et puis un autre objet, dans le Canard enchaîné. Un dessin de Bouzard qui nous montre un dîner entre amis. Un couple en reçoit un autre, tout le monde est masqué et les invités arrivent avec un bouquet de fleurs, mais aussi un flacon pas destiné à être bu. On vous a apporté une bouteille de gel hydroalcoolique. Et les autres, ravis de cette délicate attention, oh, fallait pas. Les flacons de désinfectant auraient bien leur place au musée.
Il est aussi question d'un humoriste ce matin.
Un homme dont on ne soupçonnait pas, je dois dire, l'importance politique. Il s'agit de Jean-Marie Bigard.
Ah, effectivement.
Et pendant le confinement, il a posté sur Instagram de très nombreuses vidéos pour se plaindre de la gestion de la crise par le gouvernement. « J'en ai marre, disait-il, de voir des guignols nous diriger. » Dans l'une de ses vidéos, il s'est adressé directement au chef de l'État pour l'interpeller sur la situation des bistrots, son mot d'ordre, les rouvrir.
« Pourquoi on rouvre pas les bars ? On sait, je te dis, à un mètre, on peut quand même discuter le bout de gras. Rouvre ! Il y a 200 000 entreprises entre les bistrots et les brasseries qui sont en train de crever. Rouvre ! Rouvre ! »
C'était donc l'humoriste Jean-Marie Bigard, son vibrant appel au président de la République. Eh bien, dans Le Monde, nous apprenons qu'Emmanuel Macron l'a appelé il y a quelques jours par l'intermédiaire de Patrick Sébastien, et selon l'humoriste, soutien des Gilets jaunes, le chef de l'État lui aurait donné raison en lui promettant pour très vite un échéancier sur la réouverture des bars. Macron qui appelle Bigard, le coup de fil mériterait peut-être lui aussi sa place dans un musée.
Il est également question de deux ministres ce matin.
D'abord celui de l'Intérieur, Christophe Castaner, dans Le Parisien. Une interview sur l'organisation du second tour des municipales qui aura donc lieu le 28 juin. C'est une décision ferme, dit-il, mais réversible en fonction de la situation sanitaire. Il promet des masques à disposition des électeurs dans tous les bureaux de vote. Il refuse l'idée d'avoir recours au vote électronique, mais se dit prêt à réfléchir aux procurations. Pas impossible que les électeurs puissent voter pour plusieurs personnes. Dans le journal du dimanche, c'est le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Dans une longue interview, celui qui a été réélu hier maire de Tourcoing et qui est autorisé à cumuler cette fonction avec son poste de ministre, réclame, je cite, « une politique pour le peuple » et préconise de généraliser la participation des salariés aux bénéfices des entreprises. Il se pose en atout sociale de Macron. Dixit l'hebdomadaire.
Enfin Frédéric, quelques mots de la une du New York Times.
Uniquement des noms ce dimanche. Une liste de 1000 noms, suivie chaque fois d'une petite phrase ou quelques mots de biographie. Mike Fields, 59 ans, parmi les premiers secours lors des attentats du 11 septembre. Taurine Jamal Howard, 26 ans, doux géant, athlète et musicien. Claire Dunlap, 89 ans, pilote qui donnait encore des leçons de vol à 88 ans. Kimarline Nguyen, 33 ans, écrivaine qui a inspiré les élèves de son lycée de Brooklyn. Bassé Ofyong, 25 ans, qui, dans les pires moments de leur vie, parvenait toujours à montrer le meilleur de ses amis. Les 1000 personnes sur cette page représentent 1% du bilan et ils étaient des nôtres, écrit le quotidien américain, alors que les États-Unis vont franchir la barre des 100 000 décès du Covid-19. Comme le souligne le Huffington Post, les nécrologies viennent des quatre coins du pays et cette une du New York Times a déjà été partagée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, des réseaux sur lesquels de nombreux Américains se sont par erreur indignés de l'attitude de Donald Trump qui hier a passé une partie de l'après-midi à jouer au golf. Cette une du New York Times mériterait aussi sa place au musée.
Et pourquoi pas? C'était la revue de presse de Frédéric Pommier. Merci Frédéric.